Ce matin, nous abordons le huitième volet de la série sur Jacob et nous approchons tout doucement de la fin. La dernière fois, nous avons vu ce moment décisif dans la vie du patriarche où il lutte avec Dieu et finit par reconnaître son besoin de Dieu, son besoin de la bénédiction de Dieu. Et c'est ainsi que Jacob l'usurpateur, Jacob le menteur, Jacob le fourbe, le voleur, l'indépendant, l'autosuffisant, est devenu Israël. Israël, littéralement, celui qui lutte avec Dieu. Il y a 15 jours, nous avons vu également comment Jacob s'est préparé à retrouver son frère. Son frère Ésaü, qui avait juré sa mort. En effet, Jacob est maintenant en chemin vers son pays, le pays de Canaan, et les retrouvailles avec son frère seront inévitables. C'est ainsi que Jacob, nous l'avons vu la dernière fois, oscillant entre crainte de son frère et confiance en Dieu, anticipe les retrouvailles par une quantité importante de cadeaux qu'il envoie à l'avance à son frère Ésaü. Ce matin, nous allons faire un bond en avant de deux chapitres. Nous allons sauter par-dessus les chapitres 33 et 34 pour nous retrouver au début du chapitre 35. Ça, c'est pour ceux qui suivent directement dans leur Bible, en papier ou sur leur téléphone, peu importe. Rapidement, quelques mots sur ce qui se passe dans ces deux chapitres sur lesquels nous faisons l'impasse ce matin. Tout d'abord, il y a les retrouvailles de Jacob avec Ésaü et la réconciliation miraculeuse des deux frères. Alors que Jacob se prosterne à 7 reprises en arrivant devant son frère, Ésaü, lui, court se jeter dans les bras de Jacob et ils pleurent ainsi dans les bras l'un de l'autre. Clairement, Dieu a exaucé Jacob. Souvenez-vous de cette prière qu'il avait fait monter à Dieu au chapitre 32. « Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il vienne me frapper, tuant la mère sur les enfants, et toi tu m'as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta descendance comme le sable de la mer qui est innombrable. » Cette réconciliation miraculeuse nous rappelle que c'est Dieu qui peut changer les cœurs, nous rappelle aussi qu'à Dieu rien n'est impossible. Comme le dit le livre des Proverbes au chapitre 16, verset 7, « Quand le Seigneur agrée les voies d'un homme, il fait que ses ennemis eux-mêmes se réconcilient avec lui. » Après ces retrouvailles, les deux frères se séparent et chacun suit son chemin. Ésaü retourne vers le sud, au pays de Séir, et Jacob, après avoir laissé entendre à son frère qu'il allait le suivre, part à l'ouest pour s'installer d'abord à Sukkot, puis à Sichem. Et c'est en allant de Sukkot à Sichem que Jacob va traverser le Jourdain et entrer enfin, après toutes ces années, dans le pays de Canaan. Alors je vous propose de visionner ça sur une carte, juste pour situer un petit peu les choses. Au départ, Jacob est parti d'ici, de Beersheba. Il a eu cette rencontre à Bethel, dont on va reparler ce matin, puis il était dans sa famille, donc dans la région de Paddan Aram, pendant 20 ans, et puis ensuite il est reparti en sens inverse. Ici, il y a la rencontre dont nous avons parlé la semaine dernière à Péniel, où Jacob a combattu cet ange de l'Éternel. Et puis ce matin, donc, nous allons le voir aller à Sukkot tout d'abord, puis à Sichem, pour ensuite aller à Bethel. Ésaü habite dans la région ici d'Édom, le pays de Séir. Il est venu rencontrer Jacob ici. Il est reparti vers le sud. Jacob, lui, va continuer son chemin vers l'ouest. Cette période de Sukkot et de Sichem va durer une dizaine d'années avant donc que Jacob ne retourne à Bethel. Notons ici que c'est en arrivant à Sichem que Jacob va bâtir un autel pour adorer Dieu, auquel il va donner le nom de El Eloé Israël, c'est-à-dire Dieu est le Dieu d'Israël. El Eloé Israël, Dieu est le Dieu d'Israël, autrement dit, Dieu est mon Dieu, puisque Israël est maintenant le nouveau nom de Jacob. Jacob reconnaît enfin, c'est en tout cas la première fois que cela nous est rapporté dans le texte biblique, Jacob reconnaît enfin le Dieu de ses ancêtres comme son Dieu. Et il accomplit ici ce qu'il avait dit 20 ans plus tôt à Bethel, après cette première révélation de Dieu dans ce vœu qu'il avait fait à l'Éternel, qui ressemblait plutôt à du chantage, que je remets devant nos yeux. Jacob fit ce vœu: « Si Dieu est avec moi et me garde sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je reviens sain et sauf chez mon père, alors le Seigneur sera mon Dieu. » La suite du récit, au chapitre 34, va nous rapporter un événement tragique, le viol de Dina, la fille de Jacob et de Léa, ainsi que la vengeance de ses deux frères, Siméon et Lévi, qui vont, par cette vengeance, essayer, en tout cas à leurs yeux, de laver l'honneur de leur sœur. Notons en passant, mais nous allons y revenir plus tard, que Jacob, dans ce chapitre 34, que vous pourrez relire bien évidemment à la maison si vous le souhaitez, est étrangement passif. Étrangement. Étrangement passif dans tout cet épisode dramatique. Il ne semble pas vraiment être concerné, ou plutôt, il ne semble être concerné que par sa réputation et par sa sécurité. Et on en vient à se poser la question, en tout cas certains commentateurs se la posent: Jacob aurait-il réagi avec la même passivité si Dina avait été non pas la fille de Léa, mais la fille de Rachel, son épouse bien-aimée? La question reste bien évidemment ouverte. Voilà, nous arrivons maintenant au texte de ce matin, qui va nous rapporter ce retour de Jacob à Bethel. Bethel, où il y a eu cette première révélation de Dieu, alors que Jacob fuyait son frère Ésaü. Bethel, où Jacob a donc fait ce vœu que nous venons de rappeler. Nous allons lire les 15 premiers versets du chapitre 35 du livre de la Genèse. Dieu dit à Jacob: « Monte à Bethel et installe-toi là. Là, tu feras un autel au Dieu qui t'est apparu alors que tu t'enfuyais pour échapper à Ésaü, ton frère. » Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui: « Supprimez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous monterons à Bethel, là je ferai un autel au Dieu qui m'a répondu au jour de ma détresse et qui a été avec moi sur le chemin que j'ai parcouru. » Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient dans leurs mains, ainsi que les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes environnantes et on ne poursuivit pas les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, c'est-à-dire Bethel en Canaan. Là, il bâtit un autel et il l'appela le lieu El Bethel, Dieu de Béthel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui alors qu'il s'enfuyait pour échapper à son frère. Déborah, la nourrice de Rebecca, mourut. Elle fut ensevelie en dessous de Béthel, sous le chêne qu'on a appelé du nom de chêne des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob à son arrivée de Paddan Aram et il le bénit. Dieu lui dit : Ton nom est Jacob, mais on ne t'appellera plus du nom de Jacob. Ton nom sera Israël. Ainsi il l'appela du nom d'Israël. Dieu lui dit : Je suis le Dieu tout-puissant. Sois fécond et multiplie-toi. Une nation et une assemblée de nations seront issues de toi, et des rois sortiront de tes reins. Le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, je te le donnerai, et à ta descendance après toi, je donnerai ce pays. Dieu s'éleva au-dessus de lui, au lieu où il avait parlé avec lui. Jacob installa au lieu où il avait parlé avec lui une pierre levée, une pierre sur laquelle il répandit une libation et versa de l'huile. Jacob appela du nom de Béthel le lieu où Dieu lui avait parlé. Alors que Jacob est encore à Sichem, Dieu lui dit d'aller à Béthel pour s'y installer et pour y faire un autel. Comme nous l'avons déjà dit, aller à Béthel, c'est en réalité pour Jacob retourner à Béthel. En effet, c'est à Béthel que Dieu s'était révélé pour la première fois dans ce songe un peu énigmatique avec ces anges qui montent et qui descendent sur un escalier au-dessus duquel se trouve Dieu. Dieu qui lui avait alors dit, le Seigneur se tenait au-dessus de lui, il dit : Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Tous les clans de la terre se béniront par toi et par ta descendance. Je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai vers cette terre, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'aie fait ce que je t'ai dit. Ça, c'était la première fois. Et comment Jacob a-t-il réagi à ces promesses de Dieu ? Nous lisons la suite du récit qui englobe ces versets 20 et 21 que nous avons déjà relus. Jacob s'éveilla de son sommeil, il dit : Vraiment, le Seigneur est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. Ce n'est rien de moins que la maison de Dieu, c'est la porte du ciel. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre qu'il avait placée sous sa tête, il en fit une pierre levée et versa de l'huile sur son sommet. Il appela ce lieu du nom de Béthel. Mais le nom de la ville avait d'abord été Luz. Jacob fit ce vœu : Si Dieu est avec moi et me garde sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je reviens sain et sauf chez mon père, alors le Seigneur sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait une pierre levée sera une maison de Dieu. Sur tout ce que tu me donneras, je te paierai la dîme. Nous n'allons bien évidemment pas commenter à nouveau ce passage, nous l'avions fait dans le troisième volet de la série, mais simplement rappeler ici à la fin du vœu de Jacob ce qu'il dit au verset 22. Cette pierre dont j'ai fait une pierre levée sera une maison pour Dieu. Jacob avait promis à Dieu à son retour, si Dieu le gardait, si Dieu lui permettait de revenir sain et sauf, de revenir à Béthel pour faire de ce lieu, de cette pierre qu'il avait érigé en stèle d'en faire la maison de Dieu. Et on peut bien sûr rappeler ici que c'est le sens du mot Bethel, la maison de Dieu. Ça, c'était le projet initial. Mais voilà, de retour en Canaan, Jacob s'est arrêté à Sichem. Tout d'abord à Sukkot, puis à Sichem. À Sichem où il va rester une dizaine d'années, à Sichem où va se produire ce drame qui va toucher toute la famille et en particulier sa fille Dina. Jacob a-t-il oublié cette partie du vœu qu'il avait faite à l'Éternel? On peut se poser la question. D'autant plus que c'est Dieu qui l'appelle au début du chapitre 35 à se rendre à Bethel. C'est pas l'initiative de Jacob. C'est Dieu qui lui dit d'y aller pour faire cet autel. On peut bien sûr se demander ici, en pensant à Dina, on peut légitimement se demander ce qui se serait passé, ou plutôt ne se serait pas passé, si Jacob ne s'était pas arrêté à Sichem et s'il avait été directement à Bethel. Si ce n'est bien évidemment pas le cas de toutes nos difficultés, il est parfois des difficultés dans notre vie qui sont parfois anodines ou sans gravité, mais parfois tragiques, et qui sont le résultat de nos arrêts à Sichem, de nos désobéissances à Dieu, de nos incohérences avec les engagements que nous avons pris devant lui. Que fait Jacob suite à l'appel de Dieu à retourner à Bethel? Jacob décide de mettre de l'ordre dans sa vie. Il décide de purifier sa maison de toutes les idoles qui s'y trouvent. Alors premièrement, il faut constater qu'il y a des idoles dans la maison de Jacob. Sans doute les téraphim, vous vous souvenez, ces petites idoles à figure humaine censé assurer la protection et la prospérité du foyer que Rachel avait volé à son père au moment où il quittait Paddan Aram. Peut-être aussi d'autres dieux, d'autres idoles collectées au fil des 10 années qui viennent de s'écouler, en particulier à Sichem, où Jacob s'est installé, où Jacob s'est intégré, où Jacob s'est assimilé. Deuxièmement, nous constatons que ces idoles sont présentes alors qu'il y a eu l'épisode de Péniel dans la vie de Jacob, cette rencontre décisive dont nous avons parlé la semaine dernière. Et cela nous rappelle que la sanctification, c'est le travail de toute une vie. C'est un processus qui n'est jamais terminé et qui dure toute la vie. Troisièmement, nous constatons que ce grand nettoyage dans la vie de Jacob s'impose à lui dans la perspective d'aller à Bethel, dans la perspective d'y bâtir un autel. Rencontrer Dieu demande un cœur purifié. Et Jacob en a maintenant conscience. Comment ? Le texte ne le précise pas. Quatrièmement, cette purification dans laquelle Jacob s'engage est à l'évidence profonde. Jacob va enterrer non seulement les idoles au pied d'un arbre, mais aussi les anneaux qui étaient à leurs oreilles, qui servaient sans doute d'ornement, mais aussi certainement d'amulettes protectrices. Et puis les questions dans ce texte de purification certainement du corps, et puis aussi de changement d'habit. À l'évidence, Jacob a pris conscience de la sainteté de Dieu. En tout cas, il en a pris conscience en partie. Il a pris conscience de son péché. Il a pris conscience qu'il faut adorer Dieu seul. Et il a aussi pris conscience qu'on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Ce départ pour Bethel marque ainsi la fin d'une certaine tolérance vis-à-vis du péché dans la vie de Jacob. Après la purification de sa maisonnée, Jacob quitte Sichem pour se rendre à Bethel. La terreur de Dieu dont il est question au verset 5 peut se comprendre de deux manières. Soit c'est la terreur que Dieu inspire aux habitants de la région pour qu'ils n'empêchent pas Jacob et les siens de partir suite au massacre qui vient d'avoir lieu. Soit c'est la terreur qu'inspire le Dieu de Jacob suite au massacre vengeur des fils de Jacob, Siméon et Lévi. Arrivé à Bethel, qui s'appelait donc autrefois Luz, Jacob bâtit un autel pour adorer Dieu et pour honorer le vœu qu'il avait fait une trentaine d'années plus tôt. Et il appelle ce lieu El Bethel, ce qui signifie le Dieu de Bethel. C'est pas seulement la maison, mais c'est maintenant le Dieu de la maison de Dieu. Nous voyons bien que Jacob a progressé dans sa relation avec Dieu. Et puis, après avoir mentionné le décès de la nourrice de Rebecca, la mère de Jacob, le texte mentionne une nouvelle théophanie, une nouvelle apparition de Dieu à Jacob. Une apparition où Dieu commence par rappeler à Jacob que son nom est maintenant Israël. Nous allons y revenir dans un instant. Et en particulier revenir sur le fait que jusqu'ici, ce nom qui a été changé à Peniel n'apparaît pas ou n'apparaît en réalité qu'une seule fois dans les chapitres qui précèdent. Ensuite, Dieu se présente à Jacob comme El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Et on note ici que c'est aussi ainsi que Dieu s'était révélé à Abraham. Et on note aussi que c'est ainsi, par ce Dieu Tout-Puissant, qu'Isaac avait béni Jacob avant qu'il parte, de cette bénédiction qu'il a donc reçue avant de quitter le pays. Et enfin, Dieu bénit Jacob, maintenant Israël, en lui rappelant les promesses qu'il lui avait déjà faite. Oui, de cette fécondité promise à Jacob et à sa descendance vont sortir des nations, vont sortir des rois qui hériteront du pays que Dieu a tout d'abord promis à Abraham, puis à Isaac et maintenant à Jacob, à Israël. J'aimerais conclure ce rapide survol de ces quelques versets avec trois prolongements de ce que nous venons de considérer. Et la première chose que j'aimerais souligner dans ces prolongements, c'est que la vie de la foi est toujours une réalité mêlée. Devenir enfant de Dieu, devenir chrétien, beaucoup le pensent à tort. Ce n'est pas devenir parfait, encore moins du jour au lendemain. S'engager sur le chemin de la foi, ce n'est pas être débarrassé à jamais de tout ce qui est attaché à ma nature pécheresse, à mon vieil homme, pour utiliser notre image courante dans le Nouveau Testament, ma nature, ma vieille nature ou la chair, comme nous le trouvons souvent aussi dans le Nouveau Testament. Et cette réalité, elle est particulièrement visible dans la vie de Jacob que nous avons survolé ce matin. Jacob qui a fait une rencontre avec Dieu à Peniel qui a changé sa vie. Nous avions dit que ça ressemble à une conversion ce qui s'est passé à Peniel. Un changement intérieur dans la vie de Jacob qui va être traduit par ce changement de nom. Tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Mais voilà, le vieux Jacob n'a pas disparu à Peniel, tout comme notre nature pécheresse ne disparaît pas à notre conversion. Et c'est ainsi que nous voyons Jacob claudiquer au sens propre, puisque l'ange lui a touché la hanche, mais aussi au sens figuré. Jacob qui oscille entre des faits de foi, des actes de foi, et puis des actes d'incrédulité, des actes de désobéissance. Mentionnons quelques exemples qui soulignent que le vieux Jacob est toujours là et cherche sans cesse à prendre le dessus sur Israël. Il y a tout d'abord le mensonge de Jacob à son frère lors de leur retrouvaille. Nous ne l'avons pas lu, mais vous pourrez le lire au chapitre 33, quand Jacob invite Ésaü à partir devant lui en lui promettant qu'il le rejoindra chez lui. Non, il n'est pas descendu au sud, il est parti à l'ouest, dans la direction opposée. Le vieux Jacob est toujours là. Il y a ensuite l'arrêt à Sichem, dont nous avons un peu parlé, et qui correspond à un arrêt dans sa progression vers Bethel. L'arrêt à Sichem, c'est l'arrêt qui marque l'interruption de cette obéissance à retourner à Bethel pour accomplir son vœu. Et puis il y a aussi la passivité de Jacob que j'ai déjà évoquée suite au viol de sa fille Dina, quand il ne semble être concerné que par, dit le texte, le malheur que ses fils ont attiré sur lui en le rendant odieux aux habitants du pays. Ajoutons encore à cela, à cette liste, la tolérance des idoles dans sa propre maison. Et nous avons une situation bien confuse, bien mêlée. Une situation bien mêlée où, spirituellement parlant, Jacob parfois souffle le chaud, comme quand il bâtit un autel en arrivant à Sichem, et où il dit que Dieu est maintenant son Dieu. Ça, c'est un acte de foi. Et puis où il souffle souvent le froid, comme nous venons de le voir. Et c'est sans doute pour toutes ces raisons, et peut-être d'autres que j'oublie, que le nom d'Israël n'apparaît pas dans les chapitres 33 et 34. En réalité, il apparaît une fois. C'est le nom de l'autel qu'il bâtit, hein, le Dieu d'Israël. Mais c'est Jacob qui est utilisé à 17 reprises, comme pour marquer que le vieux Jacob est bien là. Non, le vieux Jacob n'est pas mort à Péniel, tout comme notre vieille nature ne meurt pas à notre conversion. Et c'est pour cela en particulier que la vie chrétienne nous est présentée dans le Nouveau Testament comme un combat qu'il nous faut mener jour après jour contre nous-mêmes, contre notre chair, contre notre indépendance, notre désir d'indépendance vis-à-vis de Dieu qui reste là. Et à ce sujet, dans son épître aux Galates, l'apôtre Paul écrit ceci: « La chair, donc cette vieille nature que nous avons héritée d'Adam, la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. » Ces deux natures, ces deux réalités en nous, si nous sommes enfants de Dieu, sont à la base du combat spirituel que nous sommes appelés à mener jour après jour. Un combat qui se traduit par des choix que nous devons faire, des choix qui vont dans un sens ou dans l'autre. Soit je choisis de satisfaire la chair, les désirs mauvais et pécheurs qui sont en moi, soit je choisis de satisfaire l'esprit, la volonté de Dieu que je trouve dans la parole. Marcher par la foi, c'est faire le choix de marcher par l'esprit, c'est-à-dire de marcher en obéissance à Dieu, de marcher en refusant de céder aux désirs mauvais de la chair. Cela, bien évidemment, n'est vraiment possible que par l'aide de l'Esprit que Dieu donne à chacun de ses enfants. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, dans le verset qui précède, dit ceci, « Je dis plutôt marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. » Marchez par l'Esprit, voilà la solution pour faire le bon choix. Le deuxième prolongement que je vous propose concerne la question des idoles. Dans cette réalité mêlée de la vie, de la foi dont nous venons de parler, il y a des étapes incontournables comme celle que nous avons vue dans notre texte au sujet des idoles dont Jacob s'est débarrassé. Les idoles pour Jacob, c'était quelque chose de bien défini. De petites statuettes, des boucles d'oreilles, que sais-je. Mais pour nous, qu'en est-il ? Sommes-nous concernés par cette question des idoles ? Sommes-nous concernés, si nous sommes enfants de Dieu, par cette question des idoles ? Jésus, dans l'évangile de Matthieu, nous dit que personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Pourquoi n'est-il pas possible de servir deux maîtres à la fois ? Parce que c'est une question de loyauté. En effet, servir deux maîtres à la fois, c'est forcément des conflits d'intérêts, c'est forcément des compromis, c'est forcément des tiédeurs, des traîtrises, et j'en passe. Chers amis, pour ce qui est de Dieu, la Bible dit clairement que Dieu ne partagera pas, ne donnera pas sa gloire à un autre. Ce texte dans le prophète Ésaïe, au chapitre 42, verset 8, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni ma louange à des idoles. » C'est la raison pour laquelle, si nous voulons servir le Seigneur, nous devons choisir de le servir lui seul. Lui seul. C'est-à-dire de tout mettre en œuvre pour l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Nous devons choisir de nous débarrasser de toutes nos idoles. Mais c'est quoi une idole ? Pour nous. Timothy Keller, dans un petit livre que je vous invite à lire, si vous avez envie de creuser le sujet, qui s'appelle « Les idoles du cœur », je ne sais pas si on l'a dans la librairie, mais on pourra vérifier, en tout cas j'en ai une copie si ça intéresse quelqu'un, voilà ce qu'il dit. « Pour la plupart d'entre nous, le mot « idole » évoque une statue au sens propre, ou la prochaine gagnante de la Star Academy. De nombreux peuples pratiquent encore aujourd'hui le culte des idoles un peu partout dans le monde. Mais l'idolâtrie intime, celle qui a lieu dans le cœur de chacun, est une pratique universelle. En Ézéchiel 14, 3, Dieu dit des anciens du peuple d'Israël, « Ces gens-là portent leurs idoles sur leur cœur. » Tout comme nous, ces anciens ont sûrement réagi à cette accusation. Idoles ? Quelles idoles ? Je ne vois aucune idole ici. Dieu voulait leur montrer que le cœur humain a tendance à prendre de bonnes choses, comme une carrière brillante, une relation amoureuse, des biens matériels ou même la famille, et à les transformer en biens suprêmes. Nos cœurs les élèvent au rang de Dieu, croyant qu'elles nous donneront importance, sécurité, protection et épanouissement si nous parvenons à les atteindre. C'est quoi une idole pour nous ? Pour faire simple, c'est tout ce en quoi je mets ma confiance pour mon avenir, pour ma sécurité. C'est tout ce qui prend la place de Dieu dans ma vie, dans mon cœur. Chers amis, en quoi ai-je vraiment mis ma confiance pour aujourd'hui et pour demain ? en Dieu ou dans mon compte en banque? Qu'est-ce qui me donne de la sécurité? En Dieu ou dans ma carrière, dans mes diplômes, dans ma réussite professionnelle? En Dieu ou dans mes biens? Bien évidemment, toutes ces choses ne sont pas mauvaises, mais je dois veiller à ce qu'elles ne prennent pas la place de Dieu dans ma vie. Peut-être faites-vous le constat ce matin qu'il y a des idoles dans votre vie, dans votre cœur, que vous servez Dieu, mais pas que. Que faire? Et je trouve que ce que Jacob fait dans notre texte, en enterrant les idoles au pied d'un arbre, nous donne une belle illustration de ce que nous devons faire. Alors, pas littéralement, hein, bien évidemment, mais spirituellement, en apportant nos idoles, en apportant tout ce qui nous détourne de Dieu, tout ce qui nous empêche de lui obéir, en les apportant non pas au pied d'un arbre, mais au pied de la croix, pour les y laisser. Et comment est-ce qu'on les y laisse? Par la repentance, en les apportant avec un cœur repentant. Le faire sera une étape importante dans notre vie de foi. Une étape où nous prêterons peut-être pour la première fois, ou alors tout à nouveau, allégeance à Dieu et à Dieu seul. Aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul écrit ceci: « On raconte à notre sujet quels accès nous avons eus auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles. » Alors là, pour le coup, c'était des idoles physiques. « En vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » Dieu nous fasse cette grâce à chacun, celle de lui ouvrir notre cœur, celle de lui abandonner nos idoles, pour ne servir que le Dieu vivant et vrai. Le troisième et le dernier prolongement que je vous propose concerne l'arrêt à Sichem. Si dans la réalité mêlée de la marche par la foi, il y a cette problématique des idoles qu'il nous faut abandonner, il y a également la problématique des arrêts qu'il faudrait éviter. Les arrêts dans notre marche de la foi qu'il faudrait éviter. Nous l'avons déjà suggéré, si Jacob s'était rendu directement à Bethel sans passer par Sichem, bien des choses auraient certainement été différentes pour lui, pour Dina, pour ses enfants. S'il y a dans toute marche en général, et puis en particulier dans la marche de la foi, des arrêts qui sont légitimes, ce n'est pas de cela dont je parle. Légitimes quand nous nous arrêtons parce que c'est devenu difficile, l'épreuve que nous traversons est dure et nous sommes arrêter pour un temps au bord du chemin, c'est des choses qui arrivent, bien sûr. Des arrêts légitimes pour se ravitailler, se reposer, reprendre son souffle, etc. Il y a d'autres arrêts qui ne sont pas légitimes dans la marche de la foi et qui traduisent simplement notre désobéissance à Dieu, notre incrédulité, le choix de satisfaire la chair plutôt que l'esprit. Cette problématique des arrêts à Sichem fait que nous devons toujours veiller à cela et puis que nous devons toujours persévérer. Marcher par la foi demande de la persévérance. La persévérance dans la vie chrétienne est une notion fondamentale, essentielle, parce qu'il y a un but à atteindre. Il y a une ligne d'arrivée qu'il faut franchir. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul écrit à Timothée, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Il faut persévérer. marche par la foi demande de la persévérance, c'est-à-dire des efforts, de la discipline, du courage parfois, des renoncements, des remises en route quand nous nous sommes arrêtés, et j'en passe. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va écrire en utilisant une autre image que celle de la marche, l'image de la course, qui décrit elle aussi la vie chrétienne. Sigère nous l'a déjà cité ce matin, où il dit ceci: « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enlace si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve, c'est-à-dire la course qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur et le finisseur de la foi. » Oui, dans la vie chrétienne, il faut persévérer. Et il faut le dire et le redire. Il faut persévérer. C'est bien de commencer. C'est bien d'être zélé pour le Seigneur. Mais c'est bien de continuer dans cette marche-là, dans cette direction-là. Il faut persévérer parce qu'il est facile de se décourager. Facile de se décourager à cause de nous-mêmes, tout simplement, face à nos manquements, face à nos tiédeurs ou que sais-je. Nous pouvons nous décourager. Facile de se décourager à cause des autres aussi, parfois. Il faut persévérer parce qu'il est facile de s'arrêter. Vous le savez comme moi, c'est facile de s'arrêter, mais c'est toujours plus difficile de reprendre le chemin, de reprendre la route. Chers amis, ce matin, permettez-moi de vous poser cette question toute simple. Êtes-vous en marche, parlant de la vie chrétienne bien sûr, ou êtes-vous à l'arrêt ce matin? Comment est-ce que vous considérez votre vie chrétienne? Si vous êtes en marche, alors que le Seigneur vous renouvelle, qu'il renouvelle vos forces pour que vous puissiez continuer à persévérer. Si vous êtes à l'arrêt, alors qu'il vous donne d'entendre sa voix qui vous appelle à vous remettre en marche, pour aller vers Bethel, pour aller vers le lieu de l'adoration à nouveau, qu'il vous aide à entendre sa voix, afin que vous puissiez continuer à persévérer. Mais peut-être êtes-vous à Sichem depuis longtemps, depuis trop longtemps, arrêté à Sichem. Si c'est le cas, il convient certainement, comme pour Jacob, avant de reprendre le chemin, de prendre le temps de faire le point avec le Seigneur. Pourquoi pas ce matin? Pourquoi pas aujourd'hui? Prendre le temps de la repentance. Prendre le temps de la purification. Prendre le temps de l'abandon des idoles ou de toute autre chose qui est venue faire obstacle à votre communion avec le Seigneur. Vous savez, comme j'aime terminer, ce sera pour la gloire de Dieu, mais ça sera aussi pour votre bien. Amen.